L'eau profonde, 4. Il sortit de la pièce sur cette menace, prononcée du ton d'un homme qui ne s'arrêtera plus dans la vengeance. Et pour celle qui l'avait mis sur la voie de cette vengeance, pas un mot d'adieu, pas un geste. Elle l'avait regardé sortir, sans plus interpeller elle-même cet agent de sa vieille haine, qu'elle allait assouvir, enfin. Qu'allait-il faire ? La fureur froide dont il était animé ne reculerait, elle le sentait, devant aucun procédé d'enquête, ni devant aucune extrémité de châtiment. Elle eut soudain la vision d'un guet-apens dressé à la porte de la maison mystérieuse, de Valentine arrivant demain, après-demain, un des jours de la semaine, et d'un meurtre. Et c'était elle, Jeanne, qui en serait la cause. Un mouvement d'irrésistible terreur la précipita à son tour vers la porte de sa compagne d'enfance. Il était temps encore de réparer une partie de son crime en l'avertissant. Puis, au moment de tourner le bouton de cette lourde porte, cachée sous sa portière de soie, grâce à l'épaisseur de laquelle l'éclat de ce tragique entretien n'avait pu arriver à la calomnier, la délatrice s'arrêta. Elle haussa ses minces épaules et elle s'en alla de l'autre côté, vers la porte qui conduisait à l'escalier de sortie, qu'elle descendit en se disant « M'aurait-elle ménagé, elle, si elle m'avait tenue à sa merci ? La fureur de Norbert va tomber, le temps qu'il mettra à son enquête. Il n'y aura pas de scandale à cause des enfants. Il la renverra, et alors, ce sera à moi de me faire épouser. Je m'en charge. » Et ses petits pieds se posaient sur les marches avec une énergie de conquête. Il prenait possession de cet hôtel où elle était sûre maintenant de remplacer l'autre. Il se crispait dans leurs minces bottines. C'était comme si elle eût écrasé, sous ses talons, un remords qu'elle n'arrivait pas à anéantir. Chapitre 7. Le portrait. En s'échappant, comme il avait fait, du petit salon où il avait reçu la blessure d'une si terrible révélation, Chaligny n'avait pas raisonné. Il avait senti qu'il ne se possédait plus. Entre l'affreuse découverte et sa première action, il fallait mettre un peu de solitude. Il fallait surtout qu'il ne vît pas Valentine. Il n'aurait pas été le maître de ne pas lui parler, et il ne devait pas lui parler. Il avait donné sa parole à Jeanne d'abord, et même sans cela, n'était-il point de toute évidence qu'il ne surprendrait la coupable que s'il dissimulait. Il avait donc quitté l'hôtel, en avertissant qu'il ne rentrerait pas pour déjeuner. Après leur entretien de ce matin, cette brusque sortie, sans un nouvel adieu, était bien de nature à étonner sa femme. Il comptait qu'une fois rentré et redevenu plus fort que ses nerfs, il saurait fournir une explication plausible. Il marchait vite, de peur que Madame de la Node ne fût sortie derrière lui et n'essayât de le rejoindre. La présence, en ce moment-ci, de sa dangereuse maîtresse lui eût été intolérable. Elle avait ébranlé en lui trop brusquement, trop brutalement aussi, une corde trop profonde. Si fine soit-elle, les femmes ne mesurent pas toujours avec exactitude certaines réactions de l'âme masculine, celles surtout qui procèdent de l'orgueil froissé. Où allait le mari, soudain frappé au plus saignant de sa fierté d'homme? Lui-même n'en savait rien. Il entendait distinctement retentir à ses oreilles les paroles inoubliables. Les images, évoquées savamment par l'envieuse, se fixaient dans le champ lumineux de sa pensée, en forme aussi nette que s'il eût assisté en personne à son déshonneur. Cette montée de la mère de ses enfants dans ce fiacre furtif, cette descente dans le quartier suspect, cette entrée dans la louche maison. Un tel ensemble de faits positifs emportait avec soi une nécessité probante qui ne laissait pas de place au doute dans cet esprit, suggestionné, sans qu'il s'en doutât par l'intensité de passion haineuse que Jeanne avait déployée. Un travail d'association d'idées, invincible et spontané, rapprochait, coordonnait certaines impressions mal définies, éprouvées dans son étrange vie conjugale, à base de silence. Toutes les timidités ressenties devant Valentine lui refluaient à la fois au cœur. Elle s'expliquait trop bien à présent par la force d'hypocrisie de cette femme, si réservée, si repliée, qu'il n'aurait même pas osé l'imaginer coupable de la plus minime légèreté. Et il en revenait toujours à ces deux scènes que Jeanne avait vues, elle, de ses yeux. Sa femme, la marquise de Chaligny, se glissant à travers la foule des acheteurs du grand magasin, pour aller d'une porte à une autre porte, et de son coupé à un fiacre. Sa femme, la pudique, la craintive Valentine, s'aventurant dans cette rue d'un lointain faubourg. La vision se faisait précise, presque hallucinatoire. Ce doux et pur visage qu'il avait abusé si longtemps, sur l'expression duquel il s'était attendri ce matin encore, lui apparaissait dans ce décor d'adultère, et la révolte mettait à l'homme outragé la fièvre du meurtre dans le sang. Il avait cheminé droit devant lui, sans savoir où. Il arriva ainsi près de la gare Montparnasse. Il s'arrêta quelques instants à ce carrefour, toujours encombré à cause de la station et de l'entrecroisement des tramways. C'est alors, et dans l'incertitude de la route à prendre, qu'une tentation s'empara du promeneur, toute puissante aussitôt, celle de pousser jusqu'à cette rue Lacépède, dont le nom s'associait pour lui, depuis la veille, à son propre nom, d'une manière qui lui avait paru si bouffonne à lire la lettre anonyme, qui lui paraissait maintenant, après la conversation avec Jeanne, si hideusement insultante. Dans l'enquête qui allait devenir, jusqu'à ce qu'il eût surpris sa femme en flagrant délit, la grande, l'unique affaire de sa vie, n'était-ce pas le premier point à élucider que l'existence de ce pavillon des rendez-vous? Et puis, même sans cette raison, comment Chaligny n'eût-il pas éprouvé un besoin physique de voir cet endroit où se jouait le drame de son honneur conjugal? Toutes les jalousies, une fois éveillées, ont cet appétit de la réalité concrète et vivante qui les supplicie et les assouvit. L'irrésistible instinct de l'homme qui se croit trahi est de connaître chaque détail de la perfidie dont il est victime, de s'en figurer avec une implacable brutalité chaque épisode, quitte à subir un paroxysme de sa douleur à ce contact direct avec l'immobile et indestructible cadre de choses qui fut le théâtre de l'ineffaçable outrage. Il commença, pour Chaligny, ce paroxysme, lorsque son regard rencontra, sur la plaque du coin de la rue qu'il cherchait, ces syllabes déjà détestées. La mémoire de l'ingénieux naturaliste et de l'adroit courtisan, qu'elle perpétue dans ce quartier de petite vie, semble si peu faite pour s'associer à des émotions de cet ordre. Chaligny avait continué de marcher, demandant son chemin de temps à autre comme un provincial égaré dans Paris, tantôt à un sergent de ville, tantôt à un simple passant. La petite activité animale du mouvement avait un peu calmé sa fureur. Elle le reprit dès qu'il foula enfin de ses pieds les pavés de la rue maudite. Il était entré par le tronçon du haut que la rue Monge sépare de celui d'en bas, de telle sorte qu'en apercevant sur les deux lignes des façades aucune construction à deux étages qui répondît au signalement du pavillon, il avait eu malgré lui une seconde de doute et par suite de soulagement. L'inspection des numéros lui fit bientôt comprendre son erreur. Encore quelques pas, et du côté des nombres impairs, la mystérieuse maison lui apparaissait, telle que Jeanne la lui avait décrite, avec les barreaux de fer peints en noir de ses fenêtres d'en bas, sa porte brune exhaussée de trois marches, les croisées du premier et du second étage bourgeoisement garnies de leurs rideaux de mousseline, le mur du jardinet sous les feuillages des tilleuls. Il pouvait être midi, et le ciel de ce beau jour de novembre se nettoyait des vapeurs grisâtres qu'il avait voilées durant la matinée. Son azur pâle, où flottait une humidité douce, baignait les branches des antiques arbres à demi dépouillés. Le vent détachait d'elle par instant une feuille d'or qui tournoyait lentement et venait tomber par-delà le mur. La gaieté de l'heure du déjeuner emplissait de sa détente la rue populaire. Chez un restaurateur borgne, sur la devanture duquel étaient écrits ces mots « prometteur de repas au rabais »,« marchand d'abats », des ouvriers en blouse blanche commençaient de s'attabler. Deux petites apprenties sortaient de la blanchisserie, en cheveux, pour aller manger sur le pouce dans le petit logement familial, au fond de quelque arrière-cour d'une ruelle avoisinante. Le pavillon, lui, gardait ses fenêtres closes. Mais les volets de toutes les pièces étaient rabattus au dehors, et une fumée sortait de deux des tuyaux de cheminée dressés sur le toit. Chaligny, que l'aspect honnête de la maison avait déjà beaucoup étonné, fut plus frappé encore par ces signes qui prouvaient que cette demeure était habitée d'une façon régulière. Il n'était point là devant le gîte de passage, choisi par deux amants qui veulent se retrouver de temps à autre, quelques heures. D'autre part, cet inconnu que Jeanne avait vu arriver dans un coupé de remise, était-il l'hôte permanent de ce logis? C'était peu probable, d'après l'attitude qu'il avait eue, celle d'un homme impatienté de son propre retard et que sa voiture attend pour repartir. Plus le mari de Valentine étudiait la face muette de cette maison, plus sa frénésie froide des premiers instants se mélangeait d'une curiosité si aiguë qu'elle finit par le pousser à l'acte le plus opposé à son caractère. Avisant un marchand de ferraille qui fumait sa pipe sur le seuil d'une boutique à quelques pas de là, il s'avança brusquement vers lui et, sans autre préambule, « Voulez-vous gagner un billet de 100 francs ?» lui demanda-t-il.
« Je n'ai pas de refus !»
répliqua l'autre interloqué. C'était, comme tant de négociants en vieux clous et vieilles serrures qui abondent dans ce quartier, un de ces Auvergnats à face ronde qui prononce le « che » classique de Saint-Flour pour « se » après 30 ans de Paris. Il avait ses yeux jaunes des provinces du centre, qui gardent jusqu'au bout une finesse montagnarde, laquelle mène d'ordinaire ces infatigables chineurs de la plus misérable échoppe de revendeurs à un magasin de bibelots plein de chefs-d'œuvre. La prudence innée du fils du Cantal lui fit aussitôt ajouter, toujours avec cette prononciation si pittoresquement qualifiée de charabia,
« Ça dépend du travail à faire, bien sûr. »«
Ce n'est qu'une réponse à me donner, » dit Chaligny. Et, montrant le pavillon, « Qui habite cette maison ?»«
Cette maison ?»
répondit le futur antiquaire avec une niaise finasserie.
« Son propriétaire, pardi. »
« Et qui est ce propriétaire ?» insista Chaligny. Puis, impérativement, « Je vous paie 200 francs ce renseignement, si vous me le donnez tout de suite, sinon je vais le demander ailleurs. »«
C'est un moucheux Dumont, »
dit l'Auvergnat après avoir réfléchi. Il pensa sans doute qu'un de ses confrères de la rue serait moins scrupuleux, et 200 francs, à Paris comme un Saint-Flour, c'est beaucoup de liards.
« Il est vieux ou jeune ?»«
Vieux, » reprit l'homme.
Et bien malade, il est paralysé. L'année dernière, on le sortait en voiture. Cette année, je ne l'ai pas vu 3 fois.
Est-ce qu'il reçoit beaucoup de visites ? Interrogea Chaligny.
Très peu, fit le montagnard, à qui les 2 billets de 100 francs parurent suffisamment gagnés, car il coupa court à l'interrogatoire.
Il flairait quelques limiers venant tout droit de la préfecture de police, par cette peu compromettante conclusion.
Mais je ne suis pas bien renseigné. C'est rare que j'ai le temps de me tenir en feignant sur le pas de ma porte.
il y en a de quoi trimer ici. »
Et il montra avec sa pipe, qu'il ôta de sa bouche pour la circonstance, le tas de fragments en métal rouillé dont sa patiente industrie savait extraire des objets à peu près vendables. Le gentilhomme le sentit. Il était arrivé au bout du questionnaire qu'il pouvait se permettre sans se déshonorer à ses propres yeux. Il prit dans son portefeuille les billets promis et il les glissa dans la main du ferrailleur, lequel le vit avec une stupeur que son large visage finot ne dissimula point, traverser la rue et sonner à la porte du pavillon. Le plan de Chaligny était très simple. Il lui était venu brusquement en cherchant les billets de banque. Il avait constaté qu'il avait sur lui deux cartes, parmi les siennes, au nom de sa femme. Il s'était chargé de les déposer. Puis, un contretemps l'en avait empêché. Il avait donc pris une de ses cartes, qu'il tenait à la main, et qu'il tendit à la personne qui vint lui ouvrir. Un valet de chambre, déjà âgé, dont la physionomie décente et la tenue s'harmonisaient avec l'aspect de la maison plus qu'avec celui du quartier. Son visage rasé, son long tablier blanc de service, ses vêtements propres, correspondaient bien à l'idée d'un intérieur bourgeoisement réglé, et davantage encore l'escalier que Chaligny avait devant lui et qu'il dévorait des yeux. Sa femme en avait gravi les marches l'avant-veille. Une moquette épaisse le garnissait. Les murs étaient tendus d'une étoffe rouge qui encadrait de ces morceaux de tapisserie expressivement appelés des « verdures » en argot d'ameublement. Quelques aquarelles se voyaient dans les interstices. Quand le visiteur eut dit « Je viens de la part de Madame la Marquise de Chaligny », la physionomie du domestique demeura aussi complètement inexpressive que si ce nom n'eût jamais été prononcé devant lui. Valentine entrait donc ici sans que cet homme trouvât sa présence extraordinaire. Ce nouvel indice d'un étrange mystère était fait pour porter à son comble la curiosité du mari, qui insista. « Remettez cette carte à Monsieur Dumont et dites-lui que Madame la Marquise de Chaligny m'a chargé pour lui d'une commission très importante et personnelle. » Le temps que mit le valet de chambre à transmettre son message, puis à revenir, parut si long à Chaligny, cette absence dura à peine quelques minutes, que 20 projets plus déraisonnables les uns que les autres traversèrent sa pensée. Monter lui-même à ce premier étage et forcer la porte de ce monsieur Dumont, qui évidemment se préparait à le renvoyer, et ce n'était que justice. Cette façon de se présenter lui semblait maintenant par trop maladroite. Acheter ce domestique quand il redescendrait et obtenir sur les visiteurs et les visiteuses de la maison les renseignements que le marchand de ferraille n'avait pas donnés. Refuser de sortir quand on arriverait lui dire que M. Dumont n'était pas chez lui. Bref, le visiteur s'attendait si bien à des difficultés qu'il demeura presque décontenancé lorsque l'homme reparut et, l'ayant prié de monter, l'introduisit dans une pièce étroite qui servait d'antichambre au premier étage. Il s'en alla en disant « Monsieur Dumont s'excuse de faire attendre un peu, monsieur. Il était plus souffrant ce matin. Il sera là dans quelques instants. » Quoique la certitude d'une explication qui avait pour lui une importance suprême tendit les nerfs de Chaligny dans cette seule et fixe idée. Comment forcer cet homme, quand nous serons en face l'un de l'autre, à confesser la vérité? Il ne put s'empêcher de regarder autour de lui. Cette chambre d'attente avait sa fenêtre sur la rue. En face s'ouvrait une porte que le domestique, dans sa précipitation, n'avait pas entièrement fermée. Chaligny la poussa d'un geste presque machinal, et il aperçut une seconde pièce dont la physionomie l'étonna. C'était un salon bibliothèque qu'éclairaient trois fenêtres donnant sur le jardin, où le pavillon avait sa vraie façade. Cette pièce très longue était meublée avec une élégance personnelle et sobre. Les hautes chaises, garnies de tapisseries, montraient les formes un peu raides du XVIIe siècle, et la patine du noyer où elles avaient été tournées prouvait qu'elles étaient bien de l'époque. Les livres, tous reliés, étaient rangés avec ordre dans des bibliothèques basses, sur la dernière tablette desquelles se voyaient des fragments de marbre et des terres cuites. Un bureau, placé près d'une des fenêtres du jardin, avait devant lui un fauteuil d'infirme qui justifiait le renseignement fourni par l'Auvergnat sur la maladie du maître du logis, lequel devait beaucoup habiter cette galerie. Le tapis usé en témoignait, et aussi le soin qu'il avait eu de ne laisser sur les murs, entièrement revêtus de boiseries, aucune place où quelque objet ne flattât les yeux. De petites peintures d'intérieur y alternaient avec des aquarelles, des eaux-fortes, des armes ciselées. Devant le bureau, un chevalet drapé d'une étoffe ancienne, d'un rose pâle et broché de grandes fleurs d'argent, soutenait un tableau ovale. Chaligny, qui était entré dans la galerie sans y penser, s'approcha de ce tableau, et pour le regarder, en fit le tour. Il dut s'asseoir, tant son saisissement à la vue de la figure reproduite sur cette toile fut intense et inattendu. Il venait d'y reconnaître sa mère. Sa mère ? Oui, c'était bien elle, et peinte par un artiste dont il reconnut aussitôt le fer et la signature, Miro. Il existait d'elle un portrait, exécuté par le même maître, en pied, et qui se trouvait dans le salon de l'hôtel de Chaligny. Ce grand portrait avait été fait à cette même date, rappelé dans le coin de ce portrait-ci, 1875. C'était l'époque où ce portraitiste, aujourd'hui vieilli, eut sa pleine vogue. Le fils n'avait jamais vu cette réplique, qui, de la plus large toile, répétait seulement un motif, la tête et la naissance du buste. Oui, c'était sa mère, non pas telle qu'il l'avait contemplée sur son lit de mort 4 ans auparavant, vieillie avant l'âge par l'affreuse maladie qui l'avait emportée, un cancer au foie, avec un profil amaigri, jauni, sculpté en douleur. Mais la maman de sa toute première enfance. Il retrouvait ses beaux yeux veloutés d'alors, si noirs, si doux dans son visage d'une idéalité digne de Prudhon. Son sourire heureux sur ses lèvres sinueuses et souples, les masses brunes de ses cheveux qu'elle portait divisées sur son front en deux bandeaux ondulés à la mode d'alors. La ligne fine et pleine de ses joues où son teint prenait une délicatesse de pétales de fleurs. Par quel inexplicable hasard ce portrait se trouvait-il, devant ce bureau, dans le salon de cette maison, où il venait, lui, le fils de cette femme, chercher le mot d'un secret qui touchait à son honneur de mari? Un hasard? Non. Sur le bureau même, un cadre en cuir à 3 compartiments était posé, où il reconnut 3 photographies de sa mère encore, à 3 autres moments de sa vie. Une plus jeune que le portrait, une à l'âge de 40 ans et une troisième à l'âge de 50. Tout à côté, dans un cadre oblong, noir celui-là, il vit une reproduction d'une autre photographie qu'il avait fait faire, lui, Chaligny, d'après la morte. Une mèche de cheveux grisonnait sous le verre et la date de cet anniversaire sacré, 5 septembre 1897. Se lisait sur le cuir sombre. Rêvait-il ? Voici que dans un 3e cadre, placé près du 1er, sur ce même bureau, des photographies de lui-même lui apparaissaient. Une qui le représentait tout enfant, une jeune homme, une plus récente. Il aurait vu, comme dans certains cas d'hallucination, son double surgir qu'il n'aurait pas éprouvé une impression plus violente, si violente qu'elle allait jusqu'à de la terreur. Mais où était-il? Et chez qui? Quel lien caché et qu'il n'avait jamais soupçonné le rattachait à la personne qui vivait parmi ces objets et qui le connaissait, lui, depuis son enfance, qui avait connu sa mère depuis tant d'années, qui connaissait sa femme, à son insu? un nouvel indice, et qui acheva de confondre sa raison, confirmait la dénonciation qui l'avait conduit ici. Contre la croisée, un paravent d'étoffe montrait, parmi des miniatures de famille accrochées là, celle de Valentine avec leurs deux enfants. L'étrangeté d'une découverte si complètement imprévue qu'elle touchait au fantastique, le silence de cette pièce ménagée en retrait où les bruits de la rue, silencieuse elle-même, arrivaient à peine, le contraste entre ce qu'il était venu chercher ici et ce qu'il y trouvait, tout avait contribué à frapper Chaligny d'une sorte d'hypnose, dont il fut réveillé d'un coup par l'approche de l'homme auquel il se préparait, 10 minutes plus tôt, à imposer une explication, fût-ce en le menaçant. Une porte à deux battants, située entre deux décors bas de la bibliothèque et que dissimulait une tapisserie, venait de s'ouvrir. Le bruit d'un lourd fauteuil manœuvré sur des roues annonçait l'arrivée du malade. Monsieur Dumont, car c'était lui, était immobile dans ce siège mécanique que poussait un infirmier et que précédait un domestique, celui qui avait ouvert aux visiteurs. Le paralytique était un homme, de 60 ans peut-être, tout blanc. Il avait dû être très beau, car son visage, émacié par de longues souffrances, gardait ces larges et nobles lignes qui révèlent la race. De toute légère déformation, le coin de la bouche tiré en haut vers la gauche, l'œil droit un peu dévié, marquait sur ce masque d'une infinie mélancolie les stigmates de l'inexorable névrose. Son bras gauche, celui qui ne pouvait plus bouger, reposait inerte sur sa jambe, tandis que de sa main droite, il actionnait lui-même une poignée de cuivre attachée au fauteuil et qui en assurait la direction. Sa toilette, mieux que propre, presque recherchée, trahissait la minutie de ses soins personnels, rares chez ces condamnés à mort, et qui sont une dernière et pathétique protestation contre leur déchéance. L'éclat des yeux, si remarquable dans ces longues agonies, dénonçait la lutte désespérée de l'énergie animale contre la faim toute voisine. Il n'exprimait, ses yeux brûlants et très noirs, tandis que les roues caoutchoutées du fauteuil glissaient vers la porte, aucun pressentiment de l'impression qui allait y apparaître tout à l'heure. Il faut ajouter, et c'est l'explication de la facilité avec laquelle le visiteur avait été reçu, que lors de sa dernière visite rue Lacépède, ce funeste lundi, Madame de Chaligny avait parlé au malade d'un marchand qui avait de jolies statuettes du XVIIIe siècle. L'achat de quelques bibelots capables de prendre place sur une de ses bibliothèques ou dans sa grande vitrine au fond de sa galerie était la seule joie de l'interné. Un de ces malentendus qui tiennent de la fatalité et qui sont sans doute une forme de notre destinée avait voulu qu'à la réception de la carte de Valentine, le collectionneur se souvînt de la demi-promesse qu'elle lui avait faite de lui envoyer cet homme. Lorsque son fauteuil roulant passa le seuil et qu'il aperçut, au lieu du brocanteur attendu, la silhouette de Norbert de Chaligny, sa main vivante se crispa sur le bras du meuble, d'un mouvement presque convulsif. Son buste se redressa à demi. Une émotion d'une intensité extraordinaire décomposa ses traits. Un cri s'échappa de sa bouche pantelante. Il dit aux deux serviteurs qui le conduisaient un « Arrêtez ! Arrêtez !» étouffé comme un râle. Ceux-ci s'arrêtèrent en effet, juste assez de temps pour que Chaligny, immobile lui-même de surprise devant cette étonnante apparition, vit deux grosses larmes jaillir de ses prunelles fixes et glisser sur ses joues ridées et creuses. Puis, de sa voix toujours râlante, le vieillard gémit « Rentrez, mais rentrez donc, rentrez !» L'angoisse de son accent et de son visage épouvanta sans doute les domestiques, habitués à ces prodromes d'une dangereuse crise. Ils se hâtèrent de tirer le fauteuil en arrière et de refermer les portes. Chalini n'était pas encore remis du frisson que lui avait donné cette scène, aussi terrible qu'elle avait été courte, quand un des serviteurs, celui-là même qui l'avait introduit, reparut, tremblant de tout son corps et littéralement affolé. « Monsieur a une attaque !» répondit-il à l'interrogation du visiteur. « Et il n'y a personne à la maison que l'infirmier et moi. »«
Quelle est l'adresse de son médecin ?» interrompit Chalini. « Je me charge d'aller le prévenir. »«
Ah, monsieur !» dit l'homme, « je n'osais pas vous le demander. Mais vite, vite ! À midi et demi, vous le trouverez encore chez lui. C'est monsieur le docteur Salvan. Il habite 30 boulevard Saint-Germain. »
Chapitre 8. L'énigme. De la rue Lacépède à la maison de l'extrémité sud de l'interminable boulevard Saint-Germain, où le célèbre spécialiste en maladie nerveuse s'est logé, pour rester à proximité de la Salpêtrière, son hôpital, la distance n'est pas grande. Durant le demi-quart d'heure que Chalini mit à la franchir, il n'essaya pas de raisonner sur la suite des faits, pour lui absolument incompréhensible, qui venait de se produire. Dans le bouleversement de toute sa pensée, par l'énigme à laquelle il se heurtait d'une manière presque affolante, un point de lumière apparaissait très au loin. Ce visage du paralytique, surgi devant lui au seuil de cette bibliothèque étrangère, où il avait trouvé avec stupeur les portraits de sa mère, les siens, ceux de sa femme, de ses enfants, il se rappelait maintenant l'avoir déjà rencontré. Mais quand ? Mais où ? Il revoyait, dans les plus obscures profondeurs de ses souvenirs, une physionomie d'homme jeune encore, sur laquelle ce masque de vieillard et de moribond se juxtaposait. C'était une de ces réminiscences si lointaines, si noyées d'incertitude, que la réalité s'y confond avec le rêve. Monsieur Dumont, Monsieur Dumont. Chalini se répétait ce nom mentalement. Il n'arrivait pas à l'associer aux images, vagues et pourtant discernables déjà, qui remuaient dans sa mémoire. Des lambeaux de scène s'estompaient dans les portions à demi inconscientes de son intelligence. Et à toutes ces scènes, sa mère et le mari de sa mère, celui qu'il avait toujours cru, qu'il croyait toujours son père, étaient mêlés. Mais comment s'appelait alors ce personnage qui avait bien les grands traits nobles, les yeux profonds du malade? Et voici que des syllabes indistinctes commençaient de se prononcer en lui toute seule. Magneville, Raneville, Laineville. En même temps, par quel mystérieux travail de son esprit angoissé, il revoyait le regard de son père, du défunt marquis de Chalini dont il avait conduit le deuil il y avait longtemps déjà. À quel propos s'en souvenait-il, et pourquoi éprouvait-il de nouveau, après des années, l'indéfinissable malaise trop souvent ressenti en présence de cet homme, auquel il n'avait pourtant jamais eu rien à reprocher, sinon une préférence marquée pour son frère aîné? Mais tous deux, ce frère et lui, n'avaient-ils pas été élevés de même, placés chez les pères au même âge, dans les mêmes conditions? Sans doute, si ce frère n'était pas mort un peu de temps avant leur père, il eût été très fortement avantagé dans l'héritage. Un document, retrouvé parmi les papiers du marquis, prouvait qu'il avait voulu réserver à son aîné toute la quotité dont les lois lui laissaient la disposition. Norbert connaissait trop les idées du défunt gentilhomme pour s'être étonné de cet essai de reconstitution du droit d'aînesse. Quel rapport établissait-il donc tout d'un coup entre ces indices de la froideur paternelle et l'événement auquel la dénonciation de sa femme par sa maîtresse l'avait mêlé? Il n'aurait pas su le dire, ni quelle hypothèse s'esquissait, douloureusement, obscurément, dans son imagination.
hypothèse aussitôt rejetée comme sacrilège autant qu'insensée. Absurde cauchemar ! Que dissipa l'arrêt de sa voiture devant la maison du professeur Salvant. « Je saurai quelque chose par lui, se dit-il, pourvu qu'il soit là. » Le professeur était chez lui. Chalini ne lui eut pas plutôt fait passer sa carte sur laquelle il avait écrit « De la part de Monsieur Dumont, qui est plus mal », qu'il fut introduit. Le mari de Valentine le devina du premier coup d'œil. Cet homme de 40 ans passés, que Madame de la Node avait vu arriver dans un coupé de remise au pavillon de la rue Lacépède, c'était le médecin. Le professeur Salvant avait, en réalité, 10 ans de plus. Mais, conservé par une existence continuellement active et ascétique, il ne les paraissait pas. Il était mince et robuste, avec une tête petite, dont le masque saisissant et glabre rappelait la face napoléonienne de son maître Charcot. Dans ce monde des grands docteurs parisiens, où se rencontrent aujourd'hui plusieurs personnalités si remarquables, Salvant a su se faire une figure à part, en associant, comme jadis Trousseau, un beau talent d'écrire aux plus solides qualités de clinicien et d'anatomiste. Plus fameux que connu, ses immenses travaux l'ont toujours tenu éloigné des salons, et son goût pour les recherches d'ordre purement scientifique de la clientèle. La mort de son fils unique, arrivé en 1898 dans des circonstances cruelles, le jeune homme s'est empoisonné par désespoir d'amour, loin des siens dans un hôtel de Naples, l'a rendu plus sauvage encore. C'est à cette date qu'il a quitté son installation du boulevard Malherbe pour se réfugier ici, dans une maison plus modeste. Mais elle est à lui, et elle ne lui rappelle pas l'enfant tragiquement perdu. Ce détail prouve assez combien ce manieur de misère humaine reste sensible, malgré des allures volontiers brusques qu'explique son métier de neurologue, malgré aussi la dureté chirurgicale de son perçant regard. On se rappelle combien l'éclat de ses yeux avait frappé l'espionne quand elle les avait rencontrés à sa descente de voiture. Cet éclat aigu, où semble passer une froide lueur de bistouri, frappa Chaligny aussi, tandis qu'il racontait l'attaque dont venait d'être victime M. Dumont. Le médecin était debout devant un feu, dans un petit salon d'ordinaire réservé à sa femme, le torse serré dans la redingote noire de deuil qu'il ne quitte plus depuis la mort de leur fils. À mesure que son visiteur avançait dans son récit, son visage, d'une expression si énergique, s'assombrissait singulièrement. « Il est bien malade, n'est-ce pas ?» finit par dire Chaligny. « Bien malade, » répondit Salvant. « Il est à la merci de la plus petite secousse. C'est même étonnant qu'il ait enduré, » continua-t-il. « Étonnant. Sa première attaque remonte à 6 ans. Je l'ai cru perdu 20 fois. Mais il a une telle volonté de vivre. Et tant qu'on veut vraiment vivre, on vit. » Pourtant, monsieur, j'ai le droit de vous le dire, sans les soins de ces dames de Chaligny, ils n'auraient pas résisté. Elles ont été admirables toutes deux. C'est leur visite qui l'ont soutenu. Vous vous êtes décidé à le voir, vous aussi. Croyez-moi, vous avez bien fait. Les brouilles de famille doivent disparaître devant la mort. Mais j'espère qu'il ne s'agit pas de cela encore aujourd'hui. Cependant, nous n'avons pas de temps à perdre. Je serai là-bas dans 20 minutes. Vous pouvez m'annoncer. » Dieu ! Comme Chaligny, en écoutant ces mots qui obscurcissaient encore l'énigme, aurait voulu interroger le célèbre professeur, le contraindre de s'expliquer. À quoi bon ? Même si l'honneur ne lui eût pas défendu de poser des questions qui convainquissent sa mère et Valentine d'un mensonge, n'était-il pas évident que Salvant croyait à ce prétexte des difficultés familiales imaginées par les deux femmes pour justifier leur présence au chevet du mourant sans qu'aucun homme de leur nom y fût jamais? Que leur était donc ce monsieur Dumont? quel devoir était venu accomplir auprès de ce malheureux dans ce quartier perdu, sa mère d'abord, puis Valentine, et en se cachant de lui, Norbert, comme elle s'en était cachée, avec des prudences de criminel. Il avait fallu, pour qu'il surprît le secret de ses visites, un concours presque fou de circonstances. Et ces visites n'étaient pas seulement innocentes. Le témoignage du médecin en proclamait la noble, la bienfaisante charité. Les deux femmes avaient donc eu peur? De quoi? Que lui, le fils et le mari, les leur défendit? Non. Qu'il les connût simplement. Quelle impérieuse raison les avait dominées, au point qu'elles ne l'avaient pas dite non plus au médecin, pour qui elles avaient inventé cette fable d'un parent brouillé. Et le docteur Salvan y avait cru, sans faire de questions à personne sur ce parent caché des Chaligny. Pourquoi pas? Le secret professionnel était là. D'ailleurs, n'arrive-t-il pas souvent qu'un membre déshonoré d'une grande famille se terre dans Paris, change de nom? Que sa mère et Valentine eussent raconté une histoire de ce genre au docteur, c'était certain, et que cette histoire fût fausse, c'était certain encore. Si elle eût été vraie, lui, Norbert, le chef actuel de la famille, l'aurait su. Ses portraits, cependant, sur le bureau de malade, les représentants, sa mère, lui, sa femme, leurs enfants, à différents âges, que signifiait-il? La perspective maintenant ouverte devant son esprit lui infligeait d'une angoisse si forte qu'elle l'empêchait de sentir le soulagement d'être délivré d'un autre soupçon, celui qu'il avait, 2 heures auparavant, subi avec tant de violence à l'occasion de sa femme. Son attente actuelle, pour être d'un autre ordre, n'était pas moins affreuse. Elle s'accrut encore, lorsque, étant retournée au pavillon de la rue Lacépède pour annoncer la venue de M. Salvan, le domestique lui répéta, avec un visage plus consterné, que le malade reprenait à peine connaissance. Quand tout à l'heure le médecin l'avait félicité d'être, lui aussi, venu chez M. Dumont, Chaligny s'était senti rougir sous ce compliment. Quelle atroce ironie! Si réellement son apparition dans ce salon, où il n'avait jamais figuré qu'en image, avait donné à l'hôte de cette retraite cette secousse, interdite et peut-être mortelle. Maintenant, et tandis qu'il s'éloignait de la petite maison silencieuse, sous les rideaux bourgeois de ses vitres closes et parmi les feuillages dorés de ses vieux tilleuls, érigés au-dessus du mur de jardinet, le commencement d'un obscur, d'un insecouable remords grandissait en lui. Il lui avait été impossible de rester là sans chercher à en savoir davantage. Il avait donc donné au cocher, qu'il avait conduit de la rue Lacépède au boulevard Saint-Germain, puis ramené du boulevard Saint-Germain à la rue Lacépède, l'adresse de la rue de Varennes et de son propre hôtel. Une seule personne pouvait l'aider à résoudre l'énigme de plus en plus redoutable qui se précisait devant lui, de minute en minute. C'était Valentine. « Elle ne me refusera pas de me parler, » se disait-il. « Elle me le doit, et je l'exigerai. Elle ne peut pas me laisser dans cet horrible doute. J'ai le droit de tout savoir, puisqu'il s'agit d'elle et de ma mère. » Bien qu'il s'efforçât de se prouver ainsi à lui-même l'imprescriptible souveraineté de ses titres comme fils et comme mari, il ne pouvait s'empêcher de se rappeler sur quelle explication sa femme et lui s'étaient quittés vers les 11 heures. Il en était à peine 2, et quelle volte-face dans sa situation vis-à-vis d'elle. Il l'avait laissé bouleverser des soupçons que le zèle malheureux d'une parente imprudente avait insinué dans son cœur. Elle luttait contre ses soupçons. Elle ne voulait pas y croire. Elle, qui n'avait rien à se reprocher, elle ne se permettait pas d'être jalouse. Et pendant ce temps, lui qui la trahissait, il courait, sur la foi de la plus calomnieuse, de la plus gratuite dénonciation, à la plus insultante enquête. Pour engager avec cette épouse outragée l'entretien qui lui donnerait enfin la lumière dont il avait besoin, il fallait que le mari perfide l'avouât d'abord cette enquête. Ce qu'il entrevoyait des profondeurs de cette âme, si tendre et si secrète, lui donnait en ce moment, et par-dessus les autres troubles de son être, une honte de lui-même et de sa démarche là-bas. Ses émotions, d'ordre si divers, lui rendirent horriblement douloureuse la rentrée dans le petit salon où Valentine se tenait de nouveau après le déjeuner. Elle avait auprès d'elle leurs deux enfants, leur fils François et leur fille Armande, lui nommé d'après son oncle, le frère aîné de Norbert, mort si jeune, elle d'après sa grand-mère. Madame de Chaligny, quand son mari ouvrit la porte, caressait les cheveux bouclés des deux têtes rieuses, dans une attitude très pareille à celle de la photographie suspendue à l'étoffe du paravent, près du bureau de ce malade qui n'avait jamais vu ses enfants, et il faisait une partie vivante de sa vie. Cette analogie, en redoublant de nouveau chez Chaligny la sensation du mystère, lui rendit la force de provoquer la redoutable conversation. Pourtant, à 20 petits signes, au tremblement de ses blanches mains de femme autour des cheveux des petits, à la rougeur de ses paupières, à l'expression de ses prunelles, il devinait bien que de son côté, elle était toute remuée, toute vibrante. Elle ne savait pas encore son action. De quoi donc pouvait-elle frémir, sinon du chagrin qu'elle lui avait confié le matin en termes si clairs, quoique si voilés. La cruauté du monde, comme elle avait dit, l'avait blessée, et elle essayait de l'oublier au contact de ces jeunes âmes issues de la sienne, et dont l'innocence lui souriait à travers des prunelles si bleues et sur des bouches si roses. La mère leur souriait aussi, d'un sourire qui se changea sur ses lèvres nerveuses en un frémissement lorsqu'elle vit entrer Norbert. Elle laissa aller les deux enfants, qui coururent au-devant du nouveau venu, avec les jolis mouvements et le babil aimable des instants où ces fines créatures se sentent en faveur. Dans des crises comme celles que traversaient ce mari et cette femme, cette gaieté si spontanée, si ignorante de ce petit garçon et de cette petite fille devait leur faire mal. L'antithèse entre le poids que les parents portent sur leur cœur et la légèreté de ces sensibilités fraîches et neuves fait le tragique poignant de certains drames de famille. Elle en fait aussi la consolation. C'est le rajeunissement, c'est l'avenir qu'annoncent ces insouciances des enfants à l'homme et à la femme qui souffrent. Norbert et Valentine éprouvèrent à la fois l'une et l'autre impression, et leur première phrase, quand d'un commun accord ils eurent renvoyé les petits, exprimèrent cette tristesse et cette douceur. « Comme ils avaient l'air contents d'être avec vous, » dit-il. « Vous les gâtez un peu, et que vous avez raison. Quand on n'a pas été heureux tout petit, on risque beaucoup de mourir sans l'avoir jamais été. » « Je ne les gâte pas, » répondit la mère. « Je me gâte en eux. Dans mes moments de lassitude, comme celui que j'ai eu la faiblesse de vous montrer ce matin, ils me rapprennent à espérer. Mais vous voyez, cela va mieux, j'ai repris sur moi. Je ne me suis pas recouchée. J'ai déjeuné avec eux, puisque vous m'aviez fait dire que vous ne pouviez pas être là. Et c'est fini. » Il y eut un silence entre eux. Devant cette nouvelle preuve de grâce et d'énergie donnée par cette âme, qui voulait lui cacher combien elle avait été frappée jusqu'en son tréfonds par la dénonciation de la lettre anonyme, le mari infidèle et jaloux eut un remords plus vif encore, mais aussi un sentiment plus aigu du mystère contre lequel il se débattait. Fallait-il que la jeune femme y attachât de l'importance pour qu'elle continuât de le défendre, ce mystère, par toute son attitude, comme une épouse coupable, tandis qu'elle n'avait à dissimuler que le plus pur dévouement? Mais à qui? Mais pourquoi? Et trouvant dans l'angoisse accrue de cette question la force d'avouer son dégradant accès de soupçon. « Valentine, commença-t-il. « Je viens de la rue Lacépède. » Tandis qu'il prononçait ces mots, dont elle était seule au monde, maintenant que la mère de Norbert était morte, à comprendre la funeste portée sur ses lèvres, elle l'avait regardé avec une épouvante dans ses prunelles soudain fixes. Elle répéta, comme si elle ne pouvait pas croire aux paroles qu'elle avait entendues. « Vous venez de la rue Lacépède ? C'est là que vous êtes allé en me quittant, après que je vous avais parlé comme je vous avais parlé ? C'est là ?»«
Oui, »
répondit-il d'une voix basse, et avec la fermeté, accablée mais décidée, de quelqu'un qui, voulant réclamer un droit, se force à remplir d'abord le plus pénible devoir. « J'ai eu un accès d'égarement. Cette lettre anonyme, l'indication si précise de cette adresse, votre trouble quand je vous avais parlé, j'ai perdu la tête. La jalousie m'a pris. J'ai voulu savoir. J'y suis allée. » « Ah !» gémit-elle avec un accent que Norbert ne lui connaissait pas. « Vous avez pu me faire cela ? Non, ce n'est pas la lettre anonyme qui vous a précipité là-bas. Ce n'est pas la dénonciation. Ce n'est pas mon trouble. C'est... Mon Dieu !» Et elle leva les mains en les serrant dans un geste désespéré. « Et moi qui étais si touchée de votre délicatesse ce matin, moi qui me disais « On l'a calomnié !» Ce qui vous a fait aller rue Lacépède, continua-t-elle en marchant sur son mari, son beau et noble visage convulsé d'indignation. « C'est votre entretien avec Jeanne. Elle est venue, elle vous a parlé. Ce qu'elle vous a dit, je n'en sais rien. J'ai entendu vos voix à travers cette porte. Je n'ai pas voulu les avoir écoutées. Mais quand elle est partie, sans avoir osé me revoir, j'ai bien compris qu'il s'était passé entre vous quelque chose d'extraordinaire. Je devine tout maintenant. Je vois tout. C'est elle qui a écrit la lettre anonyme. Elle qui m'a suivi, qui m'a dénoncé. Elle qui vous a jeté sur cette piste, pour vous prendre à moi. Dieu, la malheureuse! On avait donc raison. Il y avait une intrigue entre vous. Pour que vous l'ayez laissé vous parler ainsi de votre femme, de la mère de vos enfants. C'est qu'elle vous tient. C'est... » Elle s'arrêta devant les mots d'amant et de maîtresse qui lui brûlaient le cœur rien qu'à les penser. Et dans un cri où la légitime révolte de l'épouse trop outragée protestait douloureusement, « Non, vous n'êtes pas allé là-bas parce que vous étiez jaloux de moi. Vous y êtes allé parce que vous me trahissez. Vous avez cru avoir une preuve, un moyen de vous rendre libre, pour être à elle davantage. Mais quelle femme avez-vous donc cru que j'étais ? Quand vous ai-je donné le droit de me juger ainsi ? Et elle ? Ah, c'est trop amer, et je ne l'ai pas mérité. » « Il est bien naturel que vous pensiez ainsi, » répondit Chaligny d'une voix plus basse encore. Il se sentait incapable, en ce moment, de discuter des évidences qui n'étaient cependant que morales, incapable de s'innocenter sur le point, si essentiel, de sa liaison avec Madame de La Node. Il était trop affamé de vérité pour mentir. Et puis, comment nier cette explication violente avec sa maîtresse, à la porte de la chambre de sa femme, et dont celle-ci avait surpris la rumeur? Comment justifier la volte-face qu'il avait, aussitôt après cette visite de Jeanne, jetée à cette enquête, qu'il était bien forcé d'avouer, puisqu'il n'était rentré chez lui que pour la prolonger? Il ajouta seulement, « Les apparences sont contre moi. Et néanmoins... » Il hésita une seconde, et sa voix se releva pour proférer ce solennel serment. « Je vous le jure sur la tête des enfants, puisque vous venez de me les rappeler. Non, ma démarche n'avait pas cette abominable intention. Non, je ne voulais pas me rendre libre. Non, je n'allais pas chercher des preuves contre vous. Je n'avais pas de plan, pas d'arrière-pensée. J'ai été fou, je vous le répète. Vos visites dans cette rue perdue, les précautions que vous preniez, ce secret dans votre vie. Mais si je vous ai méconnu un instant, j'ai été bien puni.
quand je suis arrivé devant cette maison, je n'ai pas pu dominer le doute affreux qui me rongeait. J'ai interrogé les boutiquiers voisins. J'ai su qui vivait là. Ne m'interrompez pas. C'était de l'espionnage, un infâme espionnage. Je me méprisais tant de m'y livrer. Et puis j'ai sonné à cette porte. J'ai donné votre nom pour entrer. On m'a reçu. J'ai vu Monsieur Dumont. Qui est-ce, Valentine? Qui est-ce? À mesure que son mari parlait, racontant avec la pourpre de la honte aux joues et dans les yeux la fièvre de savoir enfin, le visage de la jeune femme changeait d'expression. À la colère indignée des premiers moments, se substituait une anxiété qui alla de nouveau jusqu'à la terreur quand elle eut entendu la phrase irréparable « On m'a reçu ». Ce fut une émotion si violente qu'elle se mit à trembler de tout son corps. Puis, ramassant sa volonté dans un suprême effort, elle eut le courage de défendre encore ce secret, qui n'était pas le sien, contre l'inquisition passionnée de Chaligny. « Puisque vous avez vu Monsieur Dumont, vous le savez, qui c'est ? Un malade à qui je fais l'aumône de quelques visites, parce que je l'ai promis à une personne qui est morte. Laissez-moi remplir ce devoir de charité jusqu'au bout. Je ne le remplirai pas longtemps, et ayez, vous, la charité de ne pas m'en demander plus que je n'ai le droit de vous en dire. » « Je vous obéirai, reprit Chaligny, si vous voulez seulement me jurer sur la tête des enfants, comme j'ai fait, moi, tout à l'heure, que cette personne morte dont vous parlez, envers qui vous accomplissez un vœu, n'était pas... » Il hésita une seconde, et tout bas, « n'était pas ma mère. » « Mais vous ne jurez pas, vous ne pouvez pas jurer. À quoi bon vous le demander, d'ailleurs? Je le sais que c'était ma mère. Ce n'est pas seulement Monsieur Dupont que j'ai vu dans cette maison de la rue Lacépède. Je l'y ai vu, elle aussi. Son portrait est là, un portrait que je ne connaissais pas, chez cet homme que je ne connaissais pas non plus. Il n'y a pas que son portrait, il y a le vôtre, il y a le mien. » Et tout d'un coup, la mémoire illuminée par cet éclair du souvenir qui ravive en une seconde le détail d'une impression oubliée des années. « Mais si, je le connais, cet homme. Je me rappelle son nom maintenant. C'est Monsieur de Renneville. » Il répéta. « Renneville ? Renneville ? Il venait chez nous autrefois. Et puis il a disparu. Si, attendez, je me rappelle encore. Un procès. Une condamnation. Mais maintenant que je tiens le nom, je reconstruirai tout. Ce n'était cependant pas notre parent. » Continua-t-il en suivant tout haut ses pensées. Et ma mère a continué à le voir secrètement jusqu'à sa mort. Elle vous a demandé de continuer à le voir quand elle n'y serait plus. L'affaire Renneville. Oui, il y a eu une condamnation, mais le motif... Le motif, je ne me le rappelle plus. Je retrouverai. Je vais de ce pas chez mon notaire. Il fera la recherche dans les collections de la Gazette des Tribunaux. Je veux savoir. Je vous en supplie, mon ami, dit madame de Chaligny en le retenant. Calmez-vous. Et avec une expression de la même terreur, toujours grandissante, vous n'irez pas chez votre notaire. Vous ne prononcerez le nom de Monsieur de Renneville à personne. Vous l'avez reconnu. C'est vrai, il s'appelait ainsi. Quant à l'affaire dont vous parlez, c'est vrai encore qu'un procès a eu lieu et qu'il a été condamné. Mais qu'est-ce que cela vous fait ? Implora-t-elle. Pourquoi voulez-vous tourmenter les morts ? Oui, c'était un ami d'enfance de votre mère. Elle a eu pitié de lui après qu'il avait commis une grande faute, dont il avait été horriblement puni. Quand elle s'est vue sur le point de mourir, elle a eu pitié de lui encore. Il était malade, il était seul, elle m'a demandé de la remplacer. Ah, mon ami !» Et elle éclata en sanglots. « N'outrage pas ta mère après m'avoir outragée. Respecte-la dans cette dernière volonté, comme j'ai fait. » Que les reproches du début de leur conversation étaient loin. Et loin Jeanne de la Node et la jalousie. Valentine ne voyait plus à cette minute
que la découverte vers laquelle son mari marchait, avec cette irrésistible logique du soupçon une fois éveillé, et elle se jetait à la traverse. « Promets-moi que c'est fini, » conclut-elle, « que tu en resteras là, que veux-tu apprendre de plus ?»«
Ce que je veux apprendre ? Pourquoi ma mère m'a caché cette charité ? » répondit-il. « Pourquoi elle vous a demandé de me la cacher, Valentine ?»
continua-t-il avec une supplication. « Vous avez commencé de me dire la vérité. Allez jusqu'au bout. Comment voulez-vous que je vous croie ? Est-ce que la pitié envers un homme condamné explique ce don d'un portrait tel que j'ai vu et exécuté en se cachant de nous aussi ? Jamais je n'avais entendu parler de cette peinture, ni moi ni personne. Elle avait été faite pour cet homme, vous entendez ? Pour cet homme. Et mon portrait, à moi ? Pourquoi cet homme l'avait-il là sur sa table ? Ne me dites pas que c'est par reconnaissance pour sa bienfaitrice. Non, 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 il y a autre chose. Et quand il m'a vu, ce cri qu'il a jeté, cette crise dont il a été saisi. Vous avez parlé de charité, et vous n'aurez pas celle de m'aider à chasser une idée qui commence à s'emparer de moi, qui m'obsède, qui ne veut plus me quitter ? À la chasser ? Ajouta-t-il d'un air sombre. Ou à l'accepter ?
Quelle idée ? Balbutia Valentine.
Mais que cet homme, pour que ma mère ait tenu à le ménager jusqu'au bout, et par vous jusqu'au-delà de sa mort, avait entre les mains le moyen de la perdre, de nous perdre tous. Vous ne voulez pas que j'aille chez mon notaire. Pourquoi ? C'est que vous avez peur que son nom et le nôtre soient prononcés ensemble. Avons-nous donc été mêlés à son procès ? Et me l'a-t-on toujours caché ? Vous ne m'empêcherez pas de le savoir.
Vous saurez que cette triste affaire n'a rien de commun avec nous, répondit madame de Chaligny. Elle est sinistre, mais bien simple. Monsieur de Renneville avait un oncle très riche. Il était lui-même un peu embarrassé dans ses affaires d'argent, s'étant laissé entraîner par Paris comme tant de jeunes gens. Tous les autres héritiers de cet oncle étaient eux aussi très fortunés. Le malheureux n'a cru faire de tort à personne en essayant de s'assurer cette succession que des intrigants captaient. Il a imité l'écriture de son oncle et minuté un faux testament. Voilà son crime. Il est énorme. Il l'a expié par tant d'années de martyr. Il a été condamné et depuis qu'il a fini sa peine, il n'a plus vécu dans ce quartier où il achève de mourir que pour les pauvres et pour Dieu. « Vous vérifierez vous-même quand vous voudrez ce que je viens de vous dire. »«
Ainsi cet homme était un escroc ?» répondit Chaligny durement, âprement. « Et vous me demandez de ne pas chercher quelle raison ma mère a eu de le revoir quand il est sorti du bagne ? De vous forcer, vous, à le connaître ? On peut garder des rapports avec un assassin, parce qu'on peut ne pas le mépriser. Mais un faussaire, un ignoble faussaire !»
« Tais-toi, mon ami, tais-toi !» cria Valentine. « Je ne veux pas t'avoir entendu prononcer ces mots à propos de lui. »
Elle s'arrêta, comme terrifiée des mots qu'elle-même avait osé dire. Ils se regardèrent, sans trouver ni lui ni elle la force de continuer ce tragique entretien, que l'entrée d'un domestique qui apportait une lettre rendit tout d'un coup plus tragique encore. En remettant ce pli à Chaligny, le garçon dit, en effet, « C'est de la part de monsieur le docteur Salvant pour monsieur le marquis. Sa voiture attend là, en bas. »
« Dites que c'est bien et qu'il n'y a pas de réponse. La voiture peut repartir. »
fit Chaligny, après avoir jeté les yeux sur le billet, qu'il tendit à sa femme quand ils furent seuls. Ce n'était que 10 lignes, hâtivement tracées au crayon par le médecin. Mais quelle ligne pour celle qui les lisait sous le regard du malheureux qu'elle avait en vain tenté d'abuser.
J'ai trouvé monsieur Dumont bien atteint. Il ne peut plus parler. Je crois cependant comprendre qu'il désire vous revoir. Son agitation est telle que je prends sur moi de vous demander d'achever votre bonne action de ce matin en revenant rue Lacépède aussitôt. Ma voiture vous conduira. Je ne quitte pas le malade. « Venez, monsieur, si vous le pouvez. Ce soir, peut-être, serait-il trop tard. »«
Ah, Norbert !» supplia-t-elle. « Ce n'est pas possible que tu le laisses mourir ainsi. que tu lui refuses ce qu'il demande. Il est encore temps. Viens. La voiture de Salvan n'est pas partie. Nous la prendrons. Viens. Mais viens, courons.
Non, dit Chalini en se laissant tomber sur une chaise et serrant sa tête dans ses mains. Je n'irai pas. Je ne comprends plus rien. Je ne sais plus rien. Sinon que cet homme et tout ce qui touche à lui me fait horreur.
Tais-toi !
S'écria-t-elle de nouveau d'un accent sauvage. Puis, le serrant dans ses bras avec une ardeur désespérée, elle l'entraîna en lui disant
« Mais viens, viens vite, viens !
Ah, pourvu que ce ne soit pas trop tard !
Mais c'est ton père, c'est ton père !»